Le président des États-Unis, Joe Biden, a pris la décision d'imposer un embargo sur les importations américaines d'énergie fossile en provenance de la Russie dans le cadre des sanctions liées à l'offensive russe en Ukraine. Le président Joe Biden a annoncé le 8 mars avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes afin d'alourdir les sanctions imposées à la Russie et porter un nouveau coup puissant à Vladimir Poutine. Cette décision a été prise en coordination étroite avec les alliés des États-Unis, a-t-il précisé. Nous ne contribuerons pas à subventionner la guerre de Poutine, a également lancé Joe Biden. L'Europe s'est pour l'instant refusée à décréter un embargo sur les importations russes qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. Les États-Unis sont, eux, exportateurs nets d'énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de pétrole et de gaz qu'ils n'en consomment, a rappelé Joe Biden. Nous pouvons prendre cette décision alors que d'autres ne le peuvent pas, a-t-il expliqué. Le président états-unien a aussi assuré travailler en coordination avec l'Union européenne. Mais nous travaillons étroitement avec l'Europe et nos partenaires pour mettre en place une stratégie de long terme afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Nous restons unis dans notre intention de maintenir une pression croissante sur Poutine et sa machine de guerre, a-t-il ajouté. Le pétrole russe ne représente que 8% des importations américaines et 4% de la consommation de produits pétroliers aux États-Unis qui n'importent pas de gaz russe. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. La décision américaine ne fait pas l'unanimité en Occident. La Maison-Blanche avait ces derniers jours préparé les esprits à une annonce unilatérale marquant pour la première fois une divergence entre Occidentaux sur les sanctions à infliger à la Russie à l'instar de l'Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz avait en effet affirmé le 7 mars qu'il n'était pas possible de se passer des énergies fossiles russes, essentielles pour la vie quotidienne des citoyens en Europe. Initialement hésitant, notamment parce que cet embargo devrait encore accélérer l'inflation qui plombe son mandat depuis plusieurs mois, Joe Biden répond là à une demande forte du Congrès dont plusieurs représentants le pressent d'agir depuis plusieurs jours. Les parlementaires américains avaient commencé à préparer un projet de loi soutenu par la majorité démocrate et l'opposition républicaine, une rareté dans un contexte d'extrême division politique aux États-Unis, pour interdire ces importations de pétrole et de gaz russes. Le monde attend le pétrole iranien et vénézuélien. Les États-Unis et l'Union européenne ont discuté très activement de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'opération militaire en Ukraine. Mais alors que l'Europe n'a pas encore donné suite à cette proposition, Joe Biden rompt pour la première fois le front uni avec les Européens en matière de sanctions contre la Russie et a annoncé mardi une interdiction des importations aux États-Unis de pétrole et de gaz russe. L'Europe s'est pour l'instant refusée à décréter un embargo sur les importations russes qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. Les États-Unis sont, eux, exportateurs nets d'énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de pétrole et de gaz qu'ils n'en consomment, a rappelé Joe Biden. Nous pouvons prendre cette décision alors que d'autres ne le peuvent pas, mais nous travaillons étroitement avec l'Europe et nos partenaires pour mettre en place une stratégie de long terme afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Nous restons unis dans notre intention de maintenir une pression croissante sur Poutine et sa machine de guerre, a ajouté le chef de l'État américain. L'embargo américain sur le pétrole russe a fait grimper les prix du pétrole de 7% par rapport à hier lundi, en début de cotation hebdomadaire. Le cours de l'or noir a franchi les 139 $ le baril et s'est approché du record historique de 147,50 $ atteint en juillet 2008. La flambée des prix du pétrole est avant tout due aux inquiétudes des marchés mondiaux concernant les pénuries d'approvisionnement. Cela survient à un moment où l'Iran et le G4 plus 1 sont en phase finale des négociations pour relancer le PGAC. Elle pourrait aboutir à l'introduction de 2 millions de barils de pétrole iranien dans les marchés mondiaux. Un retour en force qui pourrait largement contrôler les prix du pétrole, estime des experts. Par ailleurs, samedi 5 mars, une délégation de hauts fonctionnaires américains a rencontré le président vénézuélien Nicolas Maduro. Soucieux de contenir la flambée du baril et d'isoler la Russie, Joe Biden envisagerait de lever partiellement les sanctions sur le pays. Le président américain devrait passer aussi en Arabie Saoudite pour convaincre les Saoudiens d'augmenter leur production de pétrole. Plusieurs centaines de lycéens d'Ajaccio manifestaient le 8 mars devant la préfecture de région en soutien à Yvan Colonna, assassin du préfet Claude Erniac. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre faisant 2 blessés légers, selon le procureur. Venus de 3 lycées, les jeunes manifestants défilaient dans les rues d'Ajaccio derrière une banderole où l'on pouvait lire en langue corse « État français assassin », a constaté une journaliste de l'AFP. Ce slogan est le plus repris en Corse depuis qu'Yvan Colonna, incarcéré à Arles pour l'assassinat du préfet Claude Erniac en 1998, a été violemment agressé par un co-détenu le 2 mars. Depuis, il est entre la vie et la mort, soigné dans un hôpital marseillais. Les manifestants ont tenu un point presse devant le lycée Laetitia Bonaparte, soulignant après la mobilisation initiée la semaine dernière par l'Assemblée de la famille nationaliste, les syndicats étudiants et l'ensemble du peuple corse. Nous ne pouvons pas, nous lycéens corses, ne pas apporter notre soutien fraternel à Yvan Colonna, prisonnier politique, incarcéré depuis 2003, et à sa famille. La responsabilité de l'État est totale pour l'avoir laissé seul avec un radicalisé, a ajouté l'un des 6 jeunes qui ont pris la parole. Quelques jours avant le début de l'invasion de l'Est de l'Ukraine par la Russie, l'US Air Force avait annoncé le déploiement de chasseurs bombardiers F-35A à Spang-Dahlem, en Allemagne, afin de renforcer l'état de préparation, améliorer la posture de défense collective de l'OTAN et accroître encore les capacités d'intégration aérienne avec les alliés et les nations partenaires. Depuis, 6 de ces appareils ont été redéployés sur le flanc oriental de l'OTAN, dont 2 à Amari en Estonie, où ils viennent d'être rejoints par des F-35B de la Royal Air Force RAF, pour lesquels il s'agit de la première participation à la Mission Baltic Air Policing, conduite par l'OTAN au profit des États baltes, 2 à Siolijai en Lituanie et 2 à Fetesti en Roumanie. Se rester à Spang-Dahlem assure des missions de surveillance en Pologne, en même titre notamment que les Rafales français à raison de 2 patrouilles quotidiennes. Depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan et les Eurofighter EF-2000 allemands. Or, le 5 mars, 2 de ces F-35A envoyés au-dessus de la Pologne ont été contraints de se poser en urgence sur l'une des pistes de l'aéroport Willy Brandt de Berlin. Brandebourg, BER, après que le pilote de l'un d'entre eux a signalé une défaillance technique alors qu'il survolait la région de Lausitz, située au sud de la capitale allemande. Une fois posés, les 2 chasseurs bombardiers américains ont été placés sous la surveillance de la police militaire, a indiqué le quotidien Der Tag. Der Spiegel, qui n'est pas parvenu à obtenir davantage de précisions sur l'incident qui a affecté l'un des F-35A. Au vu des images publiées sur les réseaux sociaux et par la presse allemande, il ne semble pas qu'une collusion aviaire soit en cause. Pour rappel, l'Allemagne pourrait décider prochainement d'acquérir des F-35 afin de permettre à sa force aérienne Luftwaffe de maintenir sa participation partage nucléaire de l'OTAN. Par ailleurs, le 2 mars, un F-16 de la 31e escadre de chasse de l'US Air Force est également engagé dans les opérations de sécurisation de l'espace aérien des pays membres de l'OTAN a atterri sur le ventre à Aviano en Italie, au retour d'une mission dans le sud-est de l'Europe. Aucun détail sur cet incident n'a depuis été donné. Voici un article que nous avons choisi de lire pour vous qui jette des lumières sur le statut légal des mercenaires. Au moment de terminer cette synthèse, on apprend que les entreprises Corsair états-uniens offrent des salaires de 2 000 $ journaliers pour combattre en Ukraine, avec l'objectif de recruter comme mercenaires jusqu'à 20 000 Est-Européens avec 5 ans d'expérience militaire, et l'armée russe avertit que seuls les militaires réguliers bénéficient du statut de prisonnier de guerre. C'est ce que écrit l'auteur de l'article à la fin de son papier. Vu que le gouvernement ukrainien a annoncé le 3 mars qu'il allait recevoir 16 000 combattants volontaires de l'étranger, que le gouvernement états-unien a lancé une campagne massive de recrutement de contractuels pour ses entreprises militaires privées et que le gouvernement russe les a avertis que les mercenaires ne sont pas protégés par les conventions internationales, il est opportun de préciser les termes du point de vue du droit de la guerre. Je simbello, écrit l'auteur. En réalité, les trois gouvernements parlent de trois réalités très distinctes que les nouvelles pratiques guerrières états-uniennes des dernières décennies ont contribué à confondre, y compris dans les études de doctrine militaire d'autres pays, directement ou indirectement influencées par le vocabulaire militaire états-unien. Ces réflexions furent élevées jusqu'aux instances internationales, jusqu'à l'ONU, appelée à élaborer de nouvelles règles, mais sous l'empire de l'anglais approximatif, de l'influence doctrinale et de la confusion juridique états-unien, de sorte qu'aucun accord ne peut en sortir. Le mercenariat est vieux comme le monde, du temps de la cité-État, quand on ne pouvait entretenir en temps de paix des troupes permanentes. Il se trouvait toujours quelques combattants professionnels, parfois regroupés en unités, constitués, prêts à louer leur service à l'État qui en aurait besoin, fût-il différent de leur propre souverain. Dans l'Europe moderne, de 400-500 États dotés d'armes de réserve à la disponibilité légale minimale, comme en France où le roi ne pouvait demander en plus de 40 jours de service militaire par an, on a institué des régiments permanents basés presque exclusivement sur le mercenariat, qu'il soit étranger ou national. Plus près de nous, l'institution du service militaire universel obligatoire par la Révolution française, en plus de permettre trois guerres mondiales entre 1794-1814, 1914-1918 et 1939-1945 marginalisa l'importance du mercenariat. Cependant, il reste toujours en ce 21e siècle au moins deux célèbres corps composés de mercenaires, la Légion étrangère française et la Garde suisse Vatican. Et ce qui fait le mercenaire est qu'il prête volontaire ses services militaires, ce n'est pas son statut particulier ou le montant de sa solde. Ainsi, les volontaires étrangers qui en 2014 sont allés à Donetsk par conviction, bien que bénévolement, étaient des mercenaires dès qu'ils étaient incorporés et vêtus de l'uniforme et des signes distinctifs des forces régulières de cet État. Un combattant régulier en uniforme ou signe distinctif d'une armée constituée était déjà protégé par les lois et coutumes de la guerre avant qu'elles ne fussent codifiées entre les puissances européennes par les multiples conventions sur le droit humanitaire et le droit de la guerre. Convoqué par les empereurs de Russie depuis Alexandre Ier jusqu'à Nicolas II, peu importe son statut militaire, qu'il soit fonctionnaire, contractuel, réserviste, conscrits ou mercenaires être incorporés à une armée régulière lui assure la protection de prisonniers de guerre en cas de capture, à l'exception des criminels de guerre. D'autre part, bien que l'engagement comme mercenaire soit un acte individuel, quand un État organise l'envoi de ses citoyens pour les forces armées ou irrégulières d'un autre État, on considère qu'il lui envoie un détachement militaire et, le cas échéant, qu'il participe au conflit auquel sont destinés les mercenaires ainsi envoyés.